Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous, et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie. Et comme toutes les semaines, on va évoquer avec elle les grands titres du journal à paraître ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence cette une de La Marseillaise avec un sujet difficile, l'habitat indigne, ce mal qui ronge l'Occitanie.
Oui, tout à fait. En fait, nous avons saisi l'occasion du rapport de la Fondation Abbé Pierre, oui, qui paraît tous les ans au niveau national, mais qui après se décline, et c'est très intéressant, région par région. Mm-hmm. Et donc, on constate qu'avec un parc privé qui est devenu inaccessible aux ménages modestes, oui, une production de logement social qui est en baisse constante, et des propositions alternatives qui sont pratiquement inexistantes, mmh, le mal-logement explose en Occitanie avec des situations d'habitat indigne qui se multiplient.
D'accord. Le deuxième titre à paraître dans cette une de La Marseillaise, c'est bien sûr la ritournelle, j'ai un peu envie de dire, c'est la bataille,
oui,
des retraites.
Oui, oui, en fait, la bataille des retraites, en dépit de la promulgation de la loi par Emmanuel Macron, mmh, le mouvement massif contre cette réforme des retraites et la retraite à 64 ans continue. Donc, le chef de l'État était jeudi, il a fait une visite éclair dans l'Hérault, au collège Louise Michel à Ganges,
oui,
mais avec une forte manifestation dans cette petite commune du nord de l'Hérault, où il y avait pas moins entre 3000 et 5000 manifestants.
Oui.
Bon, il a annoncé lors de ce déplacement, mais sans convaincre pas du tout les enseignants, des hausses de salaire conditionnées, mmh, à plus de travail.
Oui.
Et ce qu'on souligne aussi, c'est que en même temps qu'il fait son opération de communication qui vire quand même très mal pour lui, avec une forte opposition, mmh, son gouvernement prépare une nouvelle cure d'austérité, puisque il veut absolument baisser le déficit public,
oui,
de 3 points, et ça représente 350 milliards d'euros qui vont manquer justement pour l'école, pour l'hôpital. Et c'était important de le dire aussi dans ces 4 pages que nous consacrons, mmh, à cette grande bataille des retraites.
On reste dans l'éducation avec la mobilisation au collège de la Dulag à Béziers.
Oui, tout à fait. Dans ce collège, il y a une équipe éducative qui est complètement mobilisée pour obtenir le classement en réseau d'éducation prioritaire plus de cet établissement scolaire, donc un collège. Ça veut dire quoi? Ils veulent qu'il y ait moins d'enfants dans les classes.
Oui.
Aujourd'hui, les effectifs, c'est plus de 30 enfants par classe, hein, mmh, les collégiens, de la 6e à la 3e. Et le fait d'être en REP, plus, ça permettrait d'avoir des classes à 25 élèves.
Mmh.
Et pour eux, c'est extrêmement urgent.
Mmh. À lire aussi dans La Marseillaise, Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association nationale des médecins urgentistes de France, qui tire un boulet rouge sur la politique du gouvernement concernant la santé.
Oui, alors Christophe Prudhomme, qui est le porte-parole de l'Association nationale des médecins urgentistes de France,
oui,
va être la semaine prochaine, le 25 avril, à l'hôpital d'Alès. Il fera aussi un débat à l'espace Cazot dans cette même journée. Et en fait, il nous explique dans cet article que il va y avoir la crise de l'hôpital qui va s'accentuer.
Oui.
Et surtout, il met ça en regard des annonces tonitruantes du président Macron, mmh, qui promet, il a fait ça la semaine dernière dans son allocution, que d'ici la fin de l'année, toutes les urgences seront désengorgées.
Oui.
Donc évidemment, Christophe Prudhomme, qui est très bien placé pour connaître la réalité des urgences, nous explique pourquoi ça, c'est très compliqué et que les questions de santé vont être encore très prégnantes et la crise de l'hôpital est loin de s'achever.
Mmh. Et pour finir, côté culture, l'exposition Mémoire vive de l'artiste autrichien Olivier Laric, qui se déroulera,
oui,
du 21 avril au 31 décembre au Musée de la Romanité.
Tout à fait. Alors cette exposition, elle va s'installer dans le beau musée de la Romanité à Nîmes. Hein. On va vraiment avoir le temps de pouvoir en profiter. Dès la semaine prochaine, il y a 15 jours de vacances qui vont permettre aussi d'aller découvrir les œuvres de cet artiste, Olivier Laric, donc qui offre à la fois un mélange entre antiquité, modernité et technologie digitale. Donc le musée de la Romanité est vraiment un musée qui se met, on va dire, à la page de ce qui se fait dans l'art contemporain aujourd'hui.
Allez, à la une de la Marseillaise, chers auditeurs, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence donc, Françoise, avec le premier titre de cette une de la Marseillaise, l'habitat indigne, ce mal qui ronge l'Occitanie.
Oui, tout à fait. Donc nous sommes rapprochés puisque la Fondation Abbé Pierre, qui fait un travail vraiment d'utilité publique sur la question du logement, rappelons que c'est un droit d'avoir un logement digne, accessible. Tous les ans, il y a un rapport national qui fait l'état des lieux du logement, du mal logement en France, et les choses ne s'arrangent pas. Et au niveau régional, ils produisent aussi une analyse. Et nous avons donc consacré une grande partie de l'hebdo de ce vendredi à la question du mal logement. Alors il faut savoir qu'avec un parc privé qui est devenu vraiment inaccessible aux ménages modestes, avec une production de logement social qui est vraiment en baisse constante, avec des propositions alternatives qui sont pratiquement inexistantes, c'est un mal logement explose en Occitanie. Et on a des situations d'habitat indigne qui se multiplient.
Oui.
Et donc, nous avons dans nos colonnes Sylvie Chamvou-Maître, qui est directrice de la Fondation Abbé Pierre en Occitanie, qui nous explique, j'ouvre les guillemets, que les ménages modestes, même quand ils sont salariés, n'arrivent plus à se loger.
Et oui.
Et donc, ils sont amenés à vivre dans des conditions de plus en plus difficiles et renoncent même parfois à demander de l'aide par peur du regard qui sera porté sur eux.
D'accord.
Alors nous avons eu la possibilité de rencontrer des personnes qui vivent ces situations de mal logement. Notamment, il y a un jeune papa de 40 ans qui vit dans un appartement insalubre depuis près de 10 ans, qui nous explique son quotidien, avec aussi des perspectives maintenant de relogement dans un lieu beaucoup plus habitable.
Oui.
Mais ça fait partie des situations qui sont assez symptomatiques du mal logement. Alors il faut savoir qu'on donne aussi des chiffres. Hein. Alors ces chiffres sont à manier un peu avec précaution, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément comptabilisées, mais ne serait-ce qu'en nombre de logements recensés par ce qu'on appelle l'indicateur parc privé potentiellement indigne, en Occitanie, nous avions en 2017 181 000 logements recensés par cet indicateur. Et au niveau de l'Hérault, c'est presque 40 000 logements qui sont potentiellement indignes. Et parallèlement, on met en exergue aussi un autre chiffre qui est le nombre de demandes de logement social dans la région, qui est de l'ordre de 121 840 pour l'Occitanie. Et dans l'Hérault, il y a eu 4 860 logements attribués pour 37 160 demandes. Donc on voit bien l'énorme besoin en logement social, le nombre de ménages qui ont droit mais qui n'y ont pas accès. Nous avons aussi dans ce dossier des témoignages en images, puisque cette année l'agence Occitanie de la Fondation Abbé Pierre a choisi de centrer son éclairage régional sur la question de l'habitat indigne, donc, et en donnant la parole à des personnes concernées et en montrant en image dans quel logement ils vivent. Par exemple, on a Sarah, qui a 38 ans, qui s'est installée avec sa fille dans la maison de ses parents, devenue une passoire thermique.
Oui.
Une assistante sociale l'a aidée à bénéficier du programme Rénovissime. Voilà. Et on a aussi Jamal qui loue depuis des années, donc c'est cet homme de 40 ans qui est père de famille, un appartement insalubre qui est victime donc de marchands de sommeil,
oui.
Et qui est donc aujourd'hui aidé par la Fondation Abbé Pierre et les dispositifs existants. Alors, on a aussi l'exemple dans ce dossier de la ville de Montpellier,
oui.
qui teste le permis de louer dans le quartier Celle-Neuve.
Oui.
Donc ça a été créé par la loi Allure en 2014. Donc on rappelle dans nos colonnes que cette disposition exige des propriétaires d'obtenir une autorisation préalable,
oui.
pour mettre de nouveaux biens en location.
D'accord.
Donc voilà, donc on donne tout un panel. Je pense que c'est un dossier aussi qui a le mérite de mettre une nouvelle fois en grand cette question cruciale du logement,
mmh.
qui, quand il est évidemment mal distribué, fabrique et aggrave les inégalités.
Oui, et puis on peut dire, Françoise, que c'est très étonnant ce manque de logements sociaux, étant donné que les Français n'ont jamais autant épargné sur le livret A et qu'on sait très bien que les logements sociaux sont financés par les livrets A.
Oui, alors paradoxalement, le livret A, le fait qu'il soit bien rémunéré, ça accentue aussi les dettes des organismes HLM.
D'accord.
C'est grand paradoxe. On a donc justement l'interview de Christian Bastide, donc qui est un vice-président du conseil départemental du Gard,
oui.
Qui est un élu communiste et qui est en charge de l'habitat.
D'accord.
Et il nous explique l'action du département du Gard,
mmh.
évidemment. Le problème aussi des politiques gouvernementales qui aggravent la situation, puisque en fait on a affaire à des politiques qui donnent la primeur au marché, puisque
oui.
Emmanuel Macron voulait provoquer ce qu'il appelait un choc de l'offre.
Mmh.
Mais le résultat n'est pas là. Et d'ailleurs, la Fondation Abbé Pierre a dressé un bilan. Un bilan au vitriol,
oui.
De l'action logement du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
Allez, on passe à la bataille des retraites et notamment la visite éclair du chef de l'État à Ganges.
Oui, tout à fait. Alors, jeudi 20 avril, le président de la République a décidé d'aller, comme il le dit, à la rencontre des Français, mais il faut évidemment décrypter ces paroles et les mettre vraiment dans le contexte et la réalité.
Oui.
C'est-à-dire que hier à Ganges, c'est-à-dire jeudi, qui est une petite commune du nord de l'Hérault,
mmh.
Qui s'est mobilisée depuis janvier contre la réforme Macron des retraites et le recul de l'âge légal de départ à 64 ans, il y avait hier entre 3000 et 5000 manifestants à l'appel de l'intersyndicale, toujours déterminés à mettre en échec cette réforme des retraites en demandant la non-application de la loi.
Oui.
Et donc hier, donc il est arrivé, il y avait 600 membres des forces de l'ordre,
mmh.
qui ont fait un véritable cordon sanitaire entre le président, le ministre de l'Éducation et les Français qui manifestaient.
Oui. Il y a même eu un arrêté préfectoral pour les casseroles, je crois.
Oui, disons qu'on relate cette rencontre avec un reportage en immersion avec les manifestants,
mmh.
Qui nous font part aussi de la brutalité du service d'ordre, hein.
Oui.
Et puis de cette absurdité, mais qui est grave, parce que quand le préfet de l'Hérault,
oui.
Produit cet arrêté,
oui.
il se base sur une loi antiterroriste,
oui, oui.
Pour interdire, entre guillemets, les dispositifs sonores portatifs.
Mm-hmm.
Ce que les gendarmes ont compris, et on leur a dit clairement qu'il fallait qu'ils confisquent les casseroles, et on a vu des images très claires où on voyait des personnes être obligées de laisser leurs gamelles,
mmh.
Et qui étaient complètement abasourdies par cette mesure.
On manque de démocratie là dans ce, quand c'est comme
alors,
ça.
Alors c'est flagrant que ça dénote, comme nous l'expliquons, évidemment la crise sociale à laquelle s'ajoute une crise démocratique, hein, vraiment palpable et vraiment réelle. Et donc cet intersyndical qui s'est mobilisé à Ganges, parce qu'il ne s'agit pas de lâcher le président dans ses déplacements pour lui faire savoir et lui manifester l'opposition à son projet de réforme. Mmh. Il y a aussi la volonté de s'inscrire dans la perspective du 1er mai.
Oui.
Un 1er mai qui va être historique, puisque c'est très très rare qu'au 1er mai, tous les syndicats manifestent ensemble. Et
oui.
Ça va être le cas. Ça va être le cas ce 1er mai, avec pour la première fois depuis très longtemps, des délégations syndicales du monde entier,
oui.
européennes et d'ailleurs, ce qui montre aussi l'importance de cette bataille des retraites qui est regardée partout, parce qu'on est vraiment dans une lutte vraiment acharnée mmh. entre, on va dire, le capital et le travail.
Oui, absolument.
Voilà. Donc, on est allé aussi, on rencontre aussi des annonces du président
oui.
Macron, notamment en termes d'éducation, où il annonce des augmentations pour les enseignants, mais il va s'asseoir sur une de ses promesses de campagne, qui était d'augmenter de 10% les salaires,
oui.
ce qui n'est absolument pas le cas avec ces annonces.
Oui, on parle d'une centaine d'euros, là, je crois.
De 100 à 230 euros, avec un flou total qui va toucher, qui ne va pas toucher. Et puis, ça pourra aller jusqu'à 500 euros, nous a dit le président, pour ceux qui accepteront de nouvelles missions sur la base du volontariat.
D'accord.
Bien évidemment, tous les syndicats de l'éducation ont déjà claqué la porte en mars du ministre de l'Éducation parce qu'ils sont contre cette politique.
Mmh.
Et surtout, on a affaire à un corps enseignant qui fait partie d'un corps enseignant le plus mal payé d'Europe,
oui.
et qui travaille le plus.
Oui.
Voilà ce que ne dit pas évidemment le gouvernement.
Mm-hmm.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que alors qu'il fait ces annonces-là d'augmentation de salaire pour les enseignants, avec toutes les réserves qu'on dit et les syndicats, dans le même temps, ce jeudi 20 avril, les ministres de l'économie et du budget ont annoncé une nouvelle cure d'austérité de l'ordre de 350 milliards d'euros d'ici 2027. Et où on va aller chercher cet argent pour faire baisser le déficit? Dans les services publics. Alors évidemment, ils n'ont pas annoncé, eux, 350 milliards d'euros comme ça.
Mmh.
Ce sont des députés d'opposition, notamment les députés socialistes, qui ont fait les calculs en calculant que baisser de 3 points par rapport au PIB la dette publique,
oui.
ça reviendrait à faire ces 350 milliards d'euros d'économie d'ici 2027. Et sachant qu'il y a déjà énormément, des dizaines de milliards qui vont être fléchés sur l'armée, sur la police. Où va-t-on trouver les économies ?
Mmh.
On va les trouver dans les autres services publics.
Oui.
Donc, c'est vraiment... nous avons titré ce dossier retraite dans l'impasse politique. Macron fait de la com. C'est vraiment ça aujourd'hui. Et bien évidemment, nous serons toujours à chroniquer la mobilisation contre la réforme des retraites dans les prochains numéros qui seront consacrés évidemment à la préparation et à l'expression du 1er mai.
Oui. Allez, on reste dans l'éducation avec la mobilisation au collège de la Dulag à Béziers.
Oui, alors en fait, la communauté éducative de ce collège bitérois, donc de la Dulag, il est mobilisé depuis longtemps pour dénoncer et les conditions de travail dégradées. Alors les professeurs, ils se sont encore mobilisés ce 18 avril. Ils veulent absolument obtenir le classement en REP+. Alors
mmh.
qu'est-ce que ça veut dire REP+? C'est réseau d'éducation prioritaire plus.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a des moyens supplémentaires qui sont donnés aux établissements pour qu'il y ait moins d'élèves par classe, à savoir à peu près un effectif de 25
oui.
au lieu de plus de 30 aujourd'hui.
Mmh.
Donc, ils se mobilisent parce qu'ils nous disent, hein, très très concrètement, par exemple, ce professeur de physique-chimie, Bernard Mendès, qui s'exprime dans nos colonnes, il nous dit qu'avec les difficultés des élèves, il est compliqué de s'intéresser à tous,
et oui.
de les suivre, parce que quand on a des classes à plus de 30, c'est carrément très compliqué d'avoir un suivi précis pour les élèves.
Mmh.
On a aussi, quand on parle de communauté éducative, il y a les enseignants, les élèves, Il y a les fédérations de parents d'élèves. Hein.
Oui.
Et donc là, il y a la FCPE qui est aussi mobilisée. Et une des représentantes de la FCPE qui s'exprime dans la Marseillaise, elle nous dit qu'on a un beau collège avec une belle diversité. Et il milite pour que cette mixité sociale contribue au développement des compétences scolaires.
Oui.
Donc c'est un véritable enjeu aussi. Donc on a affaire, alors c'est intéressant de mettre en regard les annonces du président hier dans le collège Louise Michel à Ganges.
Et la réalité.
Et la réalité de terrain que nous, dont nous rendons compte dans le journal qui paraît donc ce vendredi pour toute la semaine.
On reste, allez, dans les folies du gouvernement, on va les appeler comme ça, avec Christophe Prudhomme, qui est le porte-parole de l'Association nationale des médecins urgentistes de France et qui tire un boulet rouge sur la politique du gouvernement, encore une fois, j'ai envie de dire.
Oui, alors évidemment, il tire un boulet rouge sur la politique de santé du gouvernement. Alors, Christophe Prudhomme, qui est quelqu'un qu'on connaît, qui est assez médiatisé, puisqu'il est porte-parole de cette Association des médecins urgentistes de France, il sera en visite dans le Gard à Alès le 25 avril prochain.
Oui.
Et donc, évidemment, on l'a fait réagir avant sa visite sur les derniers propos d'Emmanuel Macron lors de son allocution présidentielle lundi dernier, qui nous a dit, donc j'ouvre les guillemets, d'ici la fin de l'année prochaine, nous devrons avoir désengorgé tous nos services d'urgence et toujours d'ici la fin de l'année, 600 000 patients atteints de maladies chroniques qui n'ont pas de médecin traitant en disposeront.
Bon, on sent vraiment des effets de manche. On pourrait dire d'ici la fin de l'année, j'annule la fin dans le monde, en fait, presque.
Oui, mais il avait dit la même chose pour revenir à la question du logement. En 2017, c'était en juillet 2017, il venait d'être élu. Il avait dit qu'il ne voulait plus voir une seule personne sans abri dans les rues.
Oui.
Voilà. On voit le résultat aujourd'hui en 2023. Mmh. Alors, évidemment, pour Christophe Prudhomme, ces deux promesses semblent inatteignables en l'état.
Mmh.
Alors, il nous explique, et j'ouvre là les guillemets, déjà, il s'est trompé, le président Macron, sur le chiffre, puisque c'est plus de 700 000 personnes qui sont sans médecin traitant,
oui,
qui sont en infection longue durée.
D'accord.
Et aujourd'hui, personne ne le croit, c'est impossible.
Mm-hmm.
Monsieur Macron, nous dit-il, j'ouvre encore les guillemets, est un fiefé menteur qui est hors sol. Les urgences sont les miroirs grossissants de tous les dysfonctionnements,
oui,
du système de santé. La question est en réalité politique, nous explique donc Christophe Prudhomme. Est-ce que la santé doit relever exclusivement du secteur public et exclure le secteur privé lucratif? Si on faisait un référendum aujourd'hui, les Français diraient non au privé lucratif.
Ah oui.
C'est vrai qu'on est sur le fond du problème. Donc, il y a aussi, évidemment, il va aller à la rencontre du personnel de l'hôpital d'Alès. Alors, un personnel qui est très inquiet à l'approche de l'été avec l'afflux des touristes.
Et
c'est
oui,
très bien, on est dans une région très attractive. Hein. Ils sont surtout préoccupés, ces personnels soignants et non soignants. Hein. C'est qu'à Alès, ils sont pas arrivés à dépasser le seuil des 1200 accouchements qui leur permettrait de légitimer la présence de trois sages-femmes.
Oui.
Par contre, ils ont une augmentation des soins gynécologiques importants, puisque sur les deux dernières années, nous expliquons, nous avons quasiment doublé le nombre de femmes qui viennent en consultation. Alors, évidemment, ils savent aussi qu'il y a un projet dans les tuyaux qui risque de leur enlever des sages-femmes et des infirmières puéricultrices.
Oui.
Donc, on voit bien qu'entre le discours une nouvelle fois du président qui est dans la communication et la réalité de terrain, quand on va interroger les personnes concernées, là c'était Romain Sabran qui est du syndicat CGT de l'hôpital d'Alès, il y a vraiment un fossé abyssal. Voilà, donc nous expliquons tout ça dans un article assez conséquent. Et donc, il y aura cette réunion et cette visite de Christian Prudhomme qui vient à l'invitation du comité de défense de l'hôpital d'Alès-Cévennes. Voilà. qui agit pour la promotion de la santé dans le bassin Cévenol. Mmh.
Ce qui est fou, Françoise, je relisais les titres un petit peu au-dessus, c'est que mauvais logement, retraite, éducation, hôpital, tout va mal.
Oui, tout va mal et il y a un fil conducteur, c'est des choix, des choix politiques qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et qui au contraire vont aggraver les choses. Donc il faut vraiment savoir décrypter les discours aujourd'hui d'Emmanuel Macron du gouvernement. Les Français le comprennent très bien, ils le comprennent très bien pour les retraites, pour la santé, pour l'école, puisque tout simplement ils le vivent. Donc c'est leur réalité quotidienne. Il y a des solutions aussi, parce que là on est dans un mouvement de résistance, mais ce qui est intéressant dans le mouvement social au sens large, c'est qu'il est aussi porteur d'alternatives. Après on discutera, mais on faudra mettre aussi en débat la question de la du débouché politique, comme on dit vite, pour aller vite, qui va être aussi passionnant à décrypter pour nous, journal La Marseillaise.
Et il nous reste 4 ans à tenir. Allez, on passe un petit peu à la culture. Heureusement qu'il y a de la culture dans ce monde de brut.
Complètement,
L'exposition Mémoire vive de l'artiste autrichien Olivier Laric, qui aura lieu du 21 avril au 31 décembre au Musée de la Romanité.
Oui, alors là, c'est une exposition extrêmement intéressante, passionnante. Donc, elle ouvre aujourd'hui. On l'a vu en primeur. Et donc, le journaliste chronique donc cette exposition. Oui. En fait, cet artiste autrichien, Oliver Laric, on peut dire que c'est une des têtes d'affiche du courant post-internet.
D'accord.
Donc, c'est vraiment à découvrir. Donc, il interroge le devenir des œuvres d'art dans notre époque aujourd'hui, vraiment une époque 2.0, avec on voit aussi ce que peut apporter l'intelligence artificielle qui commence à venir à nous envahir un peu, et comment on la maîtrise. Et le musée de la Romanité se tourne radicalement, on va dire, de façon très intelligente vers la nouveauté. Et c'est donc la première fois que cet établissement culturel magnifique à Nîmes, qui a ouvert en 2018, elle va explorer le lien entre l'Antiquité et le monde actuel. Ça va lui permettre de mettre en valeur ses collections archéologiques, tout en s'inscrivant évidemment dans cette démarche artistique contemporaine, grâce à Oliver Laric, et donc cet art, on va dire, digital. Donc, ce que nous explique Nicolas Larquier, qui est le conservateur du Musée de la Romanité, c'est que l'objectif, c'est de créer un dialogue entre l'art contemporain et l'Antiquité pour les 30 ans du Carré d'Art, puisque ça va être un très bel anniversaire qui sera célébré de belle manière par Nîmes. Alors, il souhaite proposer donc un contenu accessible, qui n'est pas aux antipodes de l'archéologie. Donc ça va être, il va y avoir, c'est un sculpteur, Oliver Laric. Donc il y aura des vidéos explicatives qui viennent compléter l'exposition. Et donc c'est vraiment une exposition tout public. Alors c'est dès ce soir, dès le vendredi soir 21 avril, il y a l'artiste qui sera là pour offrir une conférence.
D'accord.
Une conférence qui est gratuite, où il explique la conception de ses œuvres et évidemment toute la complexité. Et attention, il faut noter la date. Nous donnons tous les renseignements pratiques dans le journal. Il y a une visite guidée de l'exposition qui est proposée jusqu'au 29 mai.
D'accord.
Et donc, Nicolas Larquet nous dit qu'ils espèrent attirer tous les publics possibles. Et donc, c'est dans la Marseillaise, on a toutes les explications sur cette grande exposition Mémoire vive au Musée de la Romanité à Nîmes.
Et ben voilà, tout est dit, Françoise.
Oui, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans le journal, mais c'est déjà une belle sélection.
Et c'est pour ça qu'on encourage, on vous encourage, chers auditeurs, à vous rendre dans tous vos kiosques pour découvrir une actualité un petit peu alternative et différente de ce que l'on peut entendre dans les médias de masse avec la Marseillaise.
C'est l'utilité de la Marseillaise.
Absolument. Merci beaucoup Françoise et on se retrouve évidemment la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.